France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Un abri de secours intelligent, innovant, déployable, en extérieur, en intérieur, Elisabeth, c'est la solution que vous avez trouvée et elle s'appelle la hutte.
Oui, la hutte, H-U-T apostrophe, hein. C'est un abri tout en un, hein. Il est composé d'un système breveté, déployable, en extérieur et en intérieur. Ça ressemble à une tente gonflable composée d'une double membrane à air captif, hein. C'est comme ça qu'on dit pour la hutte. L'idée, c'est de transformer l'abri de secours en un cocon apaisant quand on est en situation d'urgence ou de vulnérabilité. C'est le groupe français Hutchinson qui finance ce projet. Bonjour Céline Giraud.
Bonjour Elisabeth.
Vous avez inventé la hutte, vous êtes quatre à avoir eu cette idée. Comment elle est arrivée cette idée ?
Disons que notre direction a souhaité tester une méthode d'innovation. Elle nous a donné un sujet qui était unité mobile de secours. Et donc nous sommes allés sur le terrain et pendant cette expérience, nous avons interviewé des experts et nous sommes rendus compte qu'en schématisant, les pompiers avaient leurs camions, les SAMU leurs ambulances, mais que pour toutes les personnes qui n'étaient pas suffisamment blessées pour partir à l'hôpital, il n'y avait souvent rien. Ou souvent juste une couverture de survie pour les réconforter.
Alors dans cet abri de secours intelligent, on y trouve quoi ? Est-ce que vous pouvez déjà nous la décrire cette
Bien tente ? Sûr, donc à la base c'est un module qui fait 1 mètre carré au sol, 1,76 m de haut et qui se déploie en moins de 10 minutes en 25 mètres carrés. Et donc dedans vous avez une tente gonflable, vous avez du mobilier, banc et table, vous avez de l'éclairage, un lavabo et de quoi brancher PC et téléphone portable.
Donc de quoi avoir de l'électricité, on peut s'abriter et si on veut apporter, enfin si on peut aussi apporter des couvertures de survie ou des sacs de couchage, même s'il n'y a pas de lit, on peut tout à fait s'abriter à l'intérieur.
Tout à fait.
Ce qui est important. Elle est commercialisée depuis un an et demi.
Oui.
À qui ? Alors, quels sont les organismes ou les associations qui
Alors, les pompiers, les SAMU, les associations de protection civile comme la Croix-Rouge, mais ça peut être aussi les associations de victimes ou les industriels qui ont des problématiques de gestion de crise. Parce que donc la hutte peut servir aussi bien pour les victimes que pour les secouristes aussi, afin d'avoir un espace de travail et une base de vie fonctionnel et opérationnel rapidement.
Je crois que vous venez d'équiper justement les pompiers de Paris.
Tout à fait.
Et vous avez donc de plus en plus de demandes par rapport à... C'est un besoin qui est de plus en plus important.
Oui, alors pour plusieurs raisons. Donc par rapport à sa logistique facile, sa modularité, sa polyvalence. Et donc justement le fait d'être opérationnel rapidement et surtout sans avoir à se raccorder électriquement, ça permet de...
D'être efficace et opérationnel immédiatement.
Voilà. Et Gilles, notre coach.
Oui, vous parlez de la Croix-Rouge, des pompiers de Paris. J'imagine que cette solution, elle peut aussi être exportée sur des terrains à l'étranger pour des grandes ONG internationales.
Tout à fait.
C'est le cas aujourd'hui ? Ou vous êtes strictement France pour le moment ?
Pour l'instant, nous avons commencé donc, à exporter la hutte aux États-Unis, donc Total à Houston, et nous avons eu aussi les pompiers de Saint-Pierre et Miquelon. Et nous avons d'autres pistes sur l'Italie ou un petit peu partout. Donc nous sommes en phase de démarrage.
Alors là, c'est pour des grandes organisations. Nous, on pense aussi aux particuliers, aux ceux qui sont peut-être dehors, qui vivent dehors. Est-ce qu'il y a une possibilité d'étendre ce concept de la hutte aux particuliers ?
Alors justement, c'est une idée auquel il va falloir que l'on pense afin d'apporter une solution d'hébergement. Aujourd'hui, la hutte a été pensée plutôt pour apporter de l'accueil et du réconfort.
De secours,
exactement.
En situation de crise.
Exactement. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà de la solution technique, on l'a pensé aussi un petit peu par ses formes et ses couleurs comme un cocon, de façon à pouvoir apaiser et apporter du réconfort et aussi offrir un espace de travail agréable aux secouristes.
Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'équiper différemment, c'est-à-dire que vous pouvez vous adapter finalement à la demande de votre client. Là, vous n'allez pas faire la même chose si Europe 1 vous demande d'inventer un studio pour l'extérieur que ce que vous avez fait pour les pompiers de Paris.
Tout à fait. On va pouvoir l'aménager différemment, apporter différentes options dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Mm-hmm. Mais en effet, c'est une idée...
En tout cas, l'idée initiale, c'est vraiment pour les situations de crise, en cas d'attentat, d'incendie. C'est d'abord là-dessus que vous y avez pensé. Et ensuite, si vous pouvez le commercialiser, en faire un business, comme on dit, ce sera pour de l'événementiel.
Exactement.
D'accord.
Vous avez donc déjà des contacts. Vous pensez qu'il y a d'autres modèles qui peuvent venir après, d'autres idées qui seraient similaires?
Oui, alors des idées, on en a plein. Il faut les consolider et avoir justement aussi par rapport aux demandes qu'on pourrait avoir. Mais la hutte a aussi un intérêt pour, dans le cadre des chantiers, pour des bases de vie, là où les Algéco ont une logistique un petit peu lourde, chantier de courte durée.
Bien sûr, ça pourrait être une solution aussi pour les personnes, les ouvriers.
Et pour le bâtiment.
Exactement. Exactement. Et aussi pour tout ce qui est événementiel, les roadshows, ou pourquoi pas pour les studios de radio mobiles.
Gilles ?
Oui, cette hutte, elle est équipée d'électricité.
Oui.
Cette électricité vient d'où ? Il y a des panneaux solaires sur la...
Alors, peut-être sur une V2, mais là, il y a une batterie qui permet d'être autonome, donc au moins 24 heures jusqu'à 4 jours, après, suivant comment on tire dessus. Mais dans tous les cas, c'est possible de se raccorder à un secteur ou sur un groupe électrogène.
D'accord. Et tout ça est encapsulé dans une...
Dans un module d'un mètre carré au sol.
Un mètre carré au sol. Donc... Et qui devient 25 mètres carrés.
Exactement. 10 minutes pour la déployer, 10 minutes pour la ranger.
D'accord.
Ça s'appelle la hutte et c'est une véritable innovation française. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette belle solution aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 57.
Europe 1.
Restez avec nous, vous allez découvrir des talents. Ce sont ceux de Diversidé. Ils ont été primés hier soir. Ils sont avec nous sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge, si vous nous rejoignez. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous montrer que cette France qui bouge, elle le fait partout dans ses territoires. C'est le sens de ce que fait l'association Diversidé. Elle a voulu créer un mouvement en faveur de la diversité, de l'égalité des chances, notamment dans le numérique. Et vous allez voir que c'était une très bonne idée parce que les lauréats de ce concours qui a eu lieu hier soir sont bluffants, leur histoire aussi. Bonjour Abdelali El Badaoui.
Bonjour à toi Raphaël et
merci
l'équipe.
Merci d'être avec nous. Vous avez 36 ans et vous êtes le président fondateur de Banlieue Santé. Votre association a développé un assistant vocal, il s'appelle Aliatech. Et sa mission, c'est de traduire tout simplement ce que dit le médecin en le vulgarisant dans la langue du patient. Vous habitez Melun et alors votre histoire elle est particulière parce qu'il y a quelque chose de spécial qui vous a conduit à avoir cette idée-là. Vos parents sont marocains, ils étaient bergers dans le sud du Maroc, ils sont arrivés en France dans les années 60 et à l'époque ils étaient totalement analphabètes. Vous avez vu évidemment combien l'écriture, la langue finalement pouvait être une barrière pour eux et surtout quand vous avez eu vous un accident, vous avez été brûlé sur 70% du corps et le dialogue avec les équipes médicales s'est avéré extrêmement difficile.
Ouais, effectivement, Raphaël, merci parce que c'est une super présentation. Là, tu vas falloir que tu me remplaces sur les pitchs. C'est incroyable, vraiment. Ouais, effectivement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cet accident a été un révélateur et je dirais même un cadeau pour ce que je suis aujourd'hui dans ma mission. Et finalement, mes parents, ils ne parlaient pas le français. C'était pour eux assez angoissant, surtout ma mère, de voir qu'elle ne comprenait pas ce qui allait se passer par la suite. Et je pense que toute maman, quand elle a un enfant qui est en situation de danger vital, je pense que clairement, elle a qu'une envie, c'est de comprendre et essayer d'apporter le mieux qu'elle peut son aide à son enfant. Et j'ai vu dans ses yeux, à ce moment-là, lors de l'accident, ce que je n'ai jamais vu, c'est-à-dire elle savait pas quoi faire.
Perdue.
Et puis, quand elle est arrivée à l'hôpital et qu'après, il fallait parler avec les équipes médicales, j'ai vite compris qu'il y avait une vraie problématique d'inégalité sociale. La barrière de la langue, c'est un vrai sujet. Partout dans le monde où vous soyez, en fait, même vous, demain, vous allez partout dans le monde, vous allez devoir communiquer avec la langue. Et je pense que c'est un sujet qui va faire en sorte, je dirais, de recréer du lien, du lien social, du lien médical. C'est notre outil, Aliatech, c'est un outil aussi pour créer du lien social.
Ça veut dire qu'à l'époque, quand vous avez eu cet accident, c'est vous qui faisiez l'interprète directement avec l'équipe médicale?
Effectivement, quand j'allais un petit peu mieux, c'est moi qui expliquais à mes parents que j'allais être en chambre stérile.
Vous qui aviez 6 ans.
J'avais 6 ans et c'est vrai que j'étais dégourdi et je le suis encore aujourd'hui. Et voilà, c'était... Une sacrée histoire.
Ouais, une sacrée histoire qui vous a marqué et qui va donner finalement la suite. Parce que le temps a passé, vous avez eu un parcours scolaire un peu chaotique. Vous avez aussi été en équipe de France d'athlétisme. Et puis en parallèle, eh bien, vous faisiez du nettoyage justement dans un hôpital. Mmh. Et à chaque fois, on faisait appel à vous.
Effectivement, j'étais agent de service hospitalier. J'étais aussi parallèlement à ça sportif de haut niveau. Donc ça, c'est, je pense que ça forge un caractère. Et à chaque fois qu'un patient qui parlait l'arabe et ne se faisait pas comprendre, l'équipe médicale elle m'appelait pour que je puisse traduire. Et donc je me suis rendu compte que ça m'a ramené à mon jeune âge, que c'était la même problématique. Mmh. Et c'est une problématique qu'on vit encore aujourd'hui au quotidien.
Ça veut dire que vous reprenez vos études? Justement, à ce moment-là, on est en 2006 et vous vous dites, il y a quelque chose à inventer. Et en 2018, vous créez l'association Banlieue Santé. Vous faites appel à des médecins qui ont tous une double culture, justement pour arriver à faire ce trait d'union. Et puis vous vous dites, on va essayer d'aller chercher une technologie pour la mettre au service des patients.
Effectivement, alors 2018, on a créé l'association officiellement, mais ça faisait presque plus de 15 ans que officieusement on travaillait sur le territoire, sur la question culturelle, la question sociale, la question de la vulgarisation de santé publique. Ce que je faisais de manière très simple, c'était d'aller chercher des médecins sur les territoires et d'aller leur proposer de faire de la prévention de santé publique. Et donc l'association a créé cet outil, Aliatech, qui a vocation vraiment à, je dirais, faciliter la communication entre les médecins et les patients.
Cet outil, il comporte combien de langues aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est à 60 langues, avec dialectes compris. On a pour vocation, premier trimestre 2020, d'atteindre 100 langues, avec les dialectes compris.
Gilles
Vandoorcoten. 100 langues, ça paraît énorme. Vous avez identifié justement ces langues sur le terrain, concrètement ?
Ouais.
Vous avez vu des situations
Effectivement.
Comment vous faites pour évaluer combien de personnes sont concernées et choisir ces dialectes-là?
De manière très simple, c'est agir. Aujourd'hui, nous, on exerce dans les quartiers, on est dans 300 quartiers prioritaires de la ville. Donc, on a pas mal de remontées d'informations sur le terrain par les bénéficiaires, par les patients, par les travailleurs sociaux, les professionnels de santé qui nous disent, tiens, on a telle langue, on a telle problématique. Et donc, on fédère un écosystème qui nous permet de remonter tout un tas d'informations. Puisqu'on, depuis le début qu'on a commencé nos actions associatives, on a accompagné plus de 200 000 patients. Donc, c'est une certaine donnée qu'on maîtrise aujourd'hui.
Mmh. Elisabeth,
est-ce que votre solution peut être déployée partout ailleurs ?
Tout à fait. En fait, notre solution, la vocation, c'est de la déployer partout dans le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à la médecine parce qu'en fait, c'est un enjeu aujourd'hui capital. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, forcément, vous ne pouvez pas vous éduquer, vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas travailler. Mmh. Et notre enjeu, c'est aussi de transformer cet outil aussi par la suite comme un outil de santé publique qui va pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir accompagner les patients un peu mieux sur la santé publique et vulgariser la santé publique via cet outil.
Elle va sortir début 2020, cette appli.
Elle est déjà prête. On est en train d'encore faire des tests. Elle est déjà prête. On l'a déjà sur iTunes et Android. Alors, elle n'est pas téléchargeable. Mais on a vocation, là, au premier trimestre, là, déjà en janvier d'ailleurs, de lancer l'application, puisqu'on a déjà quelques contacts avec...
Avec les ONG, avec les établissements de santé.
Exactement, avec des ONG, des établissements de santé qu'on commence à rencontrer, avec qui on va travailler pour déployer la solution partout dans le monde.
On le voit, Elisabeth, hein, le numérique, c'est important parce que ça peut être un facteur d'inclusion sociale. Combien il y a de métiers dans le numérique en France, pour qu'on ait une idée?
Alors, les métiers du numérique, ça représente 3% à peine de l'emploi en France aujourd'hui, hein, parce que ça va se développer de plus en plus. 820 titulés de poste, 7 familles de métiers et 800 000 emplois qui représentent donc 3% des actifs. Aujourd'hui, les métiers des programmeurs et des développeurs, ce sont les métiers les plus recherchés et ce sont ceux qui sont le plus développés ces dernières années. Ensuite, il y a les métiers de la communication aussi, c'est important dans le numérique. Et puis tout ça va se développer de plus en plus.
On reste ensemble et on continue à regarder de près ces lauréats des diverses idées. À tout de suite.
Il est 13h19.
Europe 1.
Faire apprendre l'anglais aux enfants, mais de manière inclusive grâce à la réalité virtuelle, c'est possible grâce à Kidsbookie. À tout de suite.
Europe 1. La France. France Bouge, c'est jusqu'à 14h et dans le dossier du jour, on reçoit les lauréats de Diversidé, un mouvement en faveur de la diversité et de l'égalité des chances dans le numérique. Si vous souhaitez réagir, poser des questions à nos invités, c'est possible hein, via Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous appeler Raphaël au 3921.
Oui, faire apprendre une langue étrangère à des enfants, c'est vrai que c'est plus simple quand c'est ludique. Et c'est ce qu'essaie de faire Rainbow. Alors ça s'écrit R-E-E-N.
B-O-W.
Bonjour Ahmed Belabbas.
Bonjour Raphaël.
Merci.
Bonjour l'équipe.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de cette start-up et vous avez inventé Kids Bookie. Alors votre parcours est assez peu courant, j'avoue. Vous avez grandi dans une cité de Châtenay-Malabry et vous êtes sorti, vous, du système scolaire à 18 ans, mais jusqu'à l'âge de 6 ans, vous ne parliez pas.
J'étais enfermé dans un mutisme. Ça s'appelle la dysphasie du langage. C'est un trouble de l'apprentissage. Un trouble d'apprentissage, ça concerne tout ce qui concerne la dyslexie, l'autisme, trouble déficitaire de l'attention. Et moi, j'ai dû faire toute la thérapie jusqu'en CM2, ergothérapeute, psychomote, orthophoniste, qui m'ont débloqué. Malheureusement, j'avais toujours des problèmes de compréhension. Je ne comprenais pas les énoncés des exercices. Donc, j'avais souvent des mauvaises notes. J'avais aussi un lourd bégaiement. Du coup, je suis sorti du système scolaire.
On a du mal à y croire. Hein.
Et quand on vous entend, effectivement.
Vous entend. Alors,
j'ai beaucoup travaillé. En fait, il y a des techniques comme le fait de lire beaucoup de livres à voix haute, droit, ça aide beaucoup.
Ensuite, vous faites plein de petits boulots. Et à 25 ans, vous vous dites, je vais apprendre à coder. Pourquoi ?
Parce que j'en avais marre de ce que je faisais. Clairement, enfin, travailler dans la restauration rapide, éboueur, technicien, bah c'est difficile, c'est un métier très difficile. Du coup, je me suis dit, moi, comme j'aime la tech, je suis un sort de geek, j'ai envie de travailler dans l'informatique. La problématique, c'est que je n'avais pas de diplôme pour travailler dans l'informatique.
Donc, du coup, vous allez sur Open Classroom, qu'on connaît, qu'on connaît bien ici sur Europe 1, et vous commencez à créer des sites, d'abord pour vous, puis très vite, il y a des clients qui viennent vers vous.
Exactement. Amis en amis, j'ai commencé à me faire connaître un petit peu dans le quartier. Du coup, j'ai commencé à aider mes amis. Des fois, j'étais payé, des fois, je n'ai pas été payé. C'était vraiment pour apprendre, pour postuler à des postes de développeurs.
Et puis, c'est votre fille qui, en fait, va vous donner envie de passer une étape et de créer Kids Bookie. Parce qu'elle vous demandait tout le temps votre tablette et vous vous êtes dit que, finalement, c'était peut-être le bon moyen de lui faire apprendre l'anglais. Parce que, forcément, faire apprendre aux enfants, ce n'est pas toujours évident.
Exactement. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses avec ma fille. J'ai acheté des jeux ludiques. Des livres pour apprendre, mais elle y joue, enfin elle fait les exercices, mais elle préfère rester sur sa tablette. Donc je me suis dit, autant utiliser, enfin faire la...
Servir de la tablette comme d'un outil
comme
de travail.
Exactement. Elle est utile et l'agréable. Et comme moi j'aime beaucoup la VR et la réalité augmentée, je me suis dit, je vais faire quelque chose de super stylé pour ma fille, enfin la meilleure application qui existe au monde. l'anglais, c'était un problème pour moi, et c'est toujours un problème aujourd'hui, parce que quand on apprend à coder, le code est en anglais, la documentation est en anglais. Quand vous voulez voyager, c'est en anglais. Quand vous avez un business qui se veut aller à l'international, il faut parler anglais. Donc, c'est compliqué l'anglais. Du coup, je me suis dit, il faut que ma fille apprenne l'anglais, surtout dans le monde digital aujourd'hui.
Oui, qu'elle n'ait pas les mêmes problèmes que vous, finalement, qu'elle puisse tout de suite avoir les bons éléments en main.
Exactement, comme tout papa, enfin comme tout parent, on veut la réussite, on veut faciliter la réussite de nos enfants.
Et alors l'appli, elle est particulière forcément par rapport à votre histoire, parce qu'elle s'adapte aux enfants atteints de troubles comme la dyslexie, comme l'autisme. Vous avez tout fait pour qu'il y ait des polices adaptées.
Exactement, dans mon équipe, il y a une psychomote, on a pu aussi travailler avec des ergothérapeutes pour adapter l'outil aux enfants atteints de troubles. On a adapté une police, on a pris une police adaptée aux dyslexies. On a colorié les mots des phrases pour faciliter le ciblage des mots, enfin, différencier les mots dans la phrase. Et grâce au casque, comme disait Marie Montessori, le plus dur, c'est pas de trouver un outil capable d'attirer l'attention, mais c'est de trouver un outil capable de maintenir cette attention pour avoir des résultats. Et grâce au casque, on réduit le champ de vision de 360 degrés à 90 degrés avec l'effet de loupe. Ça fait un effet magique. Du coup, on capte vraiment l'attention des enfants.
Gilles Van Der Potten, notre coach.
Et cette méthode qui est adaptée aux personnes dyslexiques est adaptée à tout enfant également ?
Exactement.
C'est la même chose ?
Exactement.
Oui.
Enfant sain, on a même, parmi mes réussites, on a pu tester sur 500 enfants, dont une vingtaine de classes, et il y avait une classe d'enfants atteints de trisomie 21. Au début, on n'y croyait pas, on s'est dit ça va être compliqué de leur mettre un casque, c'est compliqué. En vérité, pas du tout. Ça s'est super bien passé. C'était des enfants qui avaient entre 15 et 16 ans, n'avaient jamais fait de l'anglais, Et j'étais surpris d'une fille. J'étais surpris d'une fille qui avait appris en une leçon. Sur une leçon, on a 6 mots. Elle avait appris tous les mots. On était vraiment surpris.
Et grâce à la technologie aussi. Parfois, on peut avoir peur un peu de casque de réalité virtuelle, être sur les smartphones, les tablettes, etc. Là, vous démontrez que ça peut être utile si c'est bien calibré, si c'est pensé avec des médecins. Vous êtes arrivé à une formule qui est très intéressante de ce point de vue-là.
Exactement. C'est aussi basé sur des études qui ont été faites à l'étranger, en Malaisie, au Canada, comme ils sont assez avancés sur cette science-là. Parce qu'en France, on est toujours dans une approche où on essaie de comprendre la maladie, l'handicap. Alors que dans les autres pays, on essaie de trouver ces solutions. Et ils ont commencé à trouver des solutions, on s'est basé sur ces solutions et on a vu que ça a marché très bien avec des très bons retours. D'accord.
Je voudrais qu'on s'intéresse à d'autres solutions qui sont aussi dans les diversités. Elisabeth, je crois que vous avez trouvé un lauréat dans l'accessibilité, par exemple.
Oui, il s'appelle Aimé Galmi Backtech. Il est avec Amadou Amat Ndiaye, le cofondateur donc de Backtech, cette entreprise qui crée des plateformes et des applications accessibles à des publics auxquels on ne s'adresse pas assez, des personnes atteintes de handicap, et eux aussi ont été récompensés, enfin ils ont été parmi les lauréats de diversité. Backtech.
Et puis un autre lauréat autour des stéréotypes, c'est important.
Oui, ce sont les décodeuses, elles s'appellent Swat Boutgrabé. Les décodeuses, c'est une association qui a pour objectif de donner le pouvoir au code, aux femmes de quartiers populaires. Comment ? À travers des ateliers, des sessions de formation et de sensibilisation au code. Voilà, donc là aussi, on sait que les femmes sont peu nombreuses dans tous ces métiers du numérique. Et donc, avec les décodeuses, peut-être que ça va avancer.
On l'espère en tout cas. On reste ensemble et on continue à regarder les prouesses de nos lauréats des diversités. À tout de suite.
Il est 13h28.
Europe 1.
Aider les alternants à passer de l'école à l'entreprise, c'est l'ambition de Curious Connect, une toute nouvelle plateforme. À tout de suite.
Le numérique accélérateur de diversité, c'est la devise de Diversidé dont nous recevons les lauréats cet après-midi, Raphaël. Si vous souhaitez réagir en les écoutant, c'est possible, vous le savez, vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1, vous pouvez aussi nous appeler au 3921.
Et vous allez voir que c'est en s'intéressant au décrochage scolaire au départ et aux solutions qui pouvaient aider à résoudre le problème qu'est né Curious Connect. Bonjour Bianca Chor.
Bonjour Raphaël, bonjour l'équipe.
Merci d'être avec nous. Vous avez grandi à Paris, Bianca. En faisant vos études, vous vous êtes en fait rendu compte que même si on atteint un très bon niveau, on oublie finalement une partie de ce qu'on est, une partie de ses atouts. On a des talents, ce qu'on appelle aujourd'hui les fameux soft skills, qui ne sont pas forcément exploités. Du coup, c'est comme ça que vous avez commencé à vous intéresser à l'alternance.
Tout à fait. Donc en fait, moi j'ai eu la chance d'être élevée en France et je remercie tous les jours mes parents puisque je suis britannique, française et italienne. Donc je suis née en France et j'ai grandi en France, de m'avoir envoyée à l'école française parce que c'est là que j'ai découvert en fait l'excellence et ça m'a permis de devenir aujourd'hui chercheuse en plus d'être donc cofondatrice de la startup tech Curious Connect. Et donc l'ambition c'était de rendre accessible en fait à tous les jeunes talents de France cette excellence via l'alternance, parce qu'aujourd'hui l'alternance n'est pas assez valorisée en France.
C'est-à-dire qu'au départ, vous vous êtes dit, on n'a pas tous la même égalité des chances, on n'a pas tous la possibilité de faire des études, et pourtant il y a des gens qui passent à côté d'études et qui auraient des choses à dire, des choses à faire.
C'est exactement ça. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui l'alternance est un vrai parcours du combattant, puisque 52% des jeunes qui veulent se former en alternance sont bloqués dans leur projet professionnel, dans leur parcours, parce qu'ils ne trouvent pas d'entreprise pour les prendre en alternance. Donc ça veut dire que ces jeunes sont en risque d'exclusion scolaire. C'est très grave. Et c'est inadmissible. Non seulement c'est un problème pour les jeunes, mais aussi pour les écoles qui perdent leurs étudiants, et aussi pour les entreprises qui du coup passent à côté de ces forts potentiels.
Alors comment vous faites avec Curious Connect pour finalement rassembler tout le monde et faire en sorte qu'on ne passe pas les uns à côté des autres?
Exactement. Donc en fait, Curious Connect, c'est la première solution innovante qui utilise le numérique pour intégrer tous ces acteurs, à savoir donc les jeunes, mais aussi les écoles et les entreprises, sur tout le parcours de l'alternance. Donc aujourd'hui, on a lancé notre premier programme de placement en entreprise pour les jeunes qui sont dans des écoles. On a commencé ce programme avec deux écoles il y a 2 mois. L'objectif pour 2020, c'est de développer ces programmes avec plus d'écoles, mais aussi d'intégrer des entreprises. Et c'est pour ça qu'on a lancé hier soir, au Diversity Days, le Curious Connect Club, pour fédérer tous ces acteurs autour de la question de l'alternance et en faire un tremplin de réussite.
Ça veut dire que vous allez avoir des ambassadeurs, c'est ça ?
Exactement. Des ambassadeurs, mais aussi, en fait, créer un réseau qui va permettre, nous, d'alimenter nos outils digitaux et ensuite, en 2020, de lancer notre plateforme pour centraliser les demandes et les offres d'alternance. Voilà.
Pour l'instant, vous avez placé une vingtaine de jeunes ?
Exactement. Donc, en fait, on travaille avec les écoles et on garantit à 100% des jeunes qu'on accompagne un entretien d'embauche. Pour certains, c'est le premier entretien d'embauche de leur vie. Et on a 60% de sorties positives. Donc, c'est très, très encourageant pour la suite. L'objectif, c'est d'accompagner 500 jeunes l'année prochaine avec 20 écoles et 10 entreprises, en rappelant qu'en France, quand même, il faut le savoir, il y a la réforme de la formation professionnelle en cours. Donc, les choses bougent très vite. On a 950 centres qui proposent des alternances aujourd'hui et 1500 dès début 2020. Donc, ça va vraiment s'accélérer et c'est pour ça qu'on a créé Curious Connect, pour répondre à ce besoin du marché.
Gilles Van Der Potten.
Vous dites que 52% des jeunes en alternance ne trouvent pas d'entreprise d'accueil. Le problème que vous avez identifié comme le problème numéro un, c'est quoi ? C'est une méconnaissance ? C'est une défiance ? C'est un manque de mise en relation, tout simplement ?
C'est un peu détroit. Donc, en fait, déjà, il y a un problème de communication autour de l'alternance, parce qu'en France, l'alternance n'est pas assez valorisée.
Il y a un problème d'image.
Exactement. Or, dans d'autres pays, notamment en Allemagne, mais c'est aussi le cas en Angleterre, par exemple, là où j'ai fait mes études, c'est quelque chose de beaucoup plus valorisé. Donc nous, notre objectif, c'est de faire de l'alternance un synonyme d'excellence. En France, bien entendu, mais aussi pour tous ces types d'acteurs. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est effectivement, comme vous le disiez, la mise en place de l'alternance. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui permette de centraliser ces acteurs pour en faire un parcours fluide. C'est ce qu'on essaye de faire avec notre plateforme qui sortira en 2020.
Vous êtes deux cofondatrices, c'est bien ça. Alors je voudrais justement qu'on s'intéresse aux femmes, parce que les femmes ne sont pas assez nombreuses, Elisabeth, dans les métiers du numérique.
Mais non,
Il faut le dire et le redire,
et ça doit s'arrêter. Elles ne représentent que 33% des salariés, par exemple, dans le secteur de l'ingénierie, et 30% des salariés du secteur du numérique, principalement dans les fonctions dites de support, telles que les ressources humaines, l'administration, le marketing ou la communication. Parmi les techniciens d'études et de développement en informatique, 16% sont des femmes. Parmi les techniciens en installation, maintenance, support, service en utilisateur, elles ne sont que 14%. Tiens, je vous donne un autre chiffre, il y en a beaucoup, mais c'est important de toutes les données pour montrer qu'elles sont vraiment pas très nombreuses. En 2017, 10% des startups françaises étaient dirigées par des femmes. Et quant à la part des femmes codeuses, cette part est de 27% seulement. Et 11% des femmes, par exemple, travaillent dans la cybersécurité. C'est encore trop petit.
Oui, et il y a des talents sûrement à découvrir. Merci d'être avec nous. On continue et on parle des lauréats de Diversité aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1.
Et on attend vos questions, vos remarques au 3921 et sur Twitter. C'est La France qui bouge avec vous. À tout de suite. Cet après-midi dans La France bouge, on parle de diversité et d'égalité des chances dans le numérique avec vos invités Raphaël, les lauréats de Diversity Days. Abdel Ali El Badawi, président fondateur de Banlieue Santé, une association qui a développé Aliatech, un assistant vocal qui traduit ce que dit le médecin en vulgarisant ses propos dans la langue du patient. Ahmed Belabbas, fondateur de la start-up Rainbow qui développe Kids Bookie, une solution qui permet l'apprentissage de l'anglais chez les enfants de manière ludique et inclusive grâce à la réalité augmentée. Et Bianca Shore, cofondatrice de Curious Connect, une première solution innovante qui intègre tous les acteurs pour l'alternant de l'école jusqu'à l'entreprise. Notre coach aujourd'hui, c'est Gilles Van Der Potten, directeur de Reporters d'Espoir et de la France des Solutions. Et bien sûr, Elisabeth Assayag est à mes côtés. Je voudrais qu'on s'intéresse, Elisabeth, à un autre lauréat, parce qu'il y en a eu, il y en a eu plein hier soir des lauréats. Il y avait des projets fantastiques, qui est pour le coup le porte-voix de tous les discriminés à travers un podcast.
Et ça s'appelle Stronger, ce podcast. C'est un jeune homme qui s'appelle Noam qui l'a créé. Son podcast parle de diversité, de tolérance et s'attaque à des sujets très, très actuels et très sensibles aujourd'hui. Le genre, la sexualité, le cyberharcèlement ou encore le body shaming. C'est simple, Noël dit, plus il fait face à des actes de discrimination, plus il a envie, à travers ce podcast, de les dénoncer. Avant de lancer son podcast Choc, Noam a fait partie du programme Maison, où il a effectué un service civique et a obtenu une certification Google au métier du digital. Donc tout un parcours là encore.
Qu'est-ce qui vous relie tous, Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvée dans l'initiative lancée par l'association Diversity Days? On salue évidemment Anthony Babkin qui est à l'initiative de tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez des points communs finalement tous aujourd'hui? Qui a envie de répondre, Abdelali?
Les points communs, je pense que très clairement, on pense qu'il y a énormément d'inégalités. Et notre combat à tous, c'est de casser les codes et de pouvoir faire en sorte de donner accès à tous, à tout un tas de choses, que ce soit la santé, l'éducation, le numérique et autres. Et je pense que c'est très important aujourd'hui que le numérique puisse pallier à cela et puis qu'on remette du sens et du lien et de l'humain à ce qu'on fait.
Gilles ?
Et ce qui vous rassemble aussi, c'est que vous avez fait partie d'un parcours commun, d'après ce que j'ai compris, hein, Diversité vous a permis de rencontrer, d'être coaché. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement?
Diversité, clairement, il a été vraiment, je dirais, un moteur pour nous. Pendant 10 jours, on s'est retrouvés à 8 clos, à 8 personnes, avec des coachs, avec des intervenants, la prise en parole en public, avec Emmanuel Schilla, avec tout un tas aussi de, je dirais, d'entrepreneurs connus qui ont pu intervenir dans des séances spécifiques, en individuel. Donc vraiment, on a rencontré énormément de gens, mais aussi on a pu travailler sur nos projets. On a pu vraiment les porter comme on avait envie de les porter.
Donc du coaching pour votre business model, pour votre communication, etc.
Exactement.
Céline, on a une question sur Twitter.
Oui, hashtag Europe 1. C'est Marc qui vous demande à tous les trois, quand on est lauréat d'un prix comme vous, est-ce qu'on est fier d'abord pour soi ou plutôt pour ses parents?
Ahmed? Les deux peut-être?
Les deux, je pense que les deux. Mes parents, pareil, comme Abdelali, sont illettrés, ne savent pas parler français. Du coup, ils ont toujours fait des travaux. Ma mère était dans le ménage, mon père était dans la maçonnerie. Du coup, même moi, pour mon parcours, c'est valorisant. C'est assez choquant. J'ai envie de dire que quand on a un parcours comme le mien, quand on est technicien, on n'est pas très valorisé. Quand on est boueur, on n'est pas valorisé. Et là, c'est vraiment l'occasion d'être valorisé. Des gens viennent nous voir, des personnes importantes, des PDG, des chefs d'entreprise qui viennent nous écouter. Donc, c'est incroyable.
Bianca.
Oui, pour compléter, moi je dirais que je suis très fière pour les bénéficiaires de nos actions. Et en ce qui me concerne, ce sont les jeunes, parce que hier, pendant le Diversity Days, j'ai 2 jeunes qui m'ont appelé pour me dire qu'elles avaient trouvé une alternance grâce à notre programme de placement en entreprise. Et tous les jours, il y a des jeunes qui cherchent des entreprises en alternance et qui ne trouvent pas. Donc voilà, Diversity Days, c'est aussi une façon de leur donner de l'espoir, un rôle modèle à suivre et beaucoup de courage. Et surtout, nous avons nous donner la force pour avancer plus vite sur ces questions-là.
Les choses vont s'accélérer pour tous les trois en 2020. Clairement, c'est là qu'on va voir la réalisation véritablement de vos 3 projets, Abdelali.
Oui, tout à fait. Nous, pour Aliatech et Banlieue Santé, on est en train de...
Aliatech, qui s'écrit A-A-L-I-A, hein, je le précise pour
Merci.
Ceux qui nous écoutent.
Et on est en train de travailler pour une levée de fonds, premier trimestre, début d'année 2020. On cherche à lever 2 millions d'euros pour faire de la recherche et développement, notamment parce qu'on a compris que notre système pouvait être utile, mais je pense qu'il peut aller encore plus loin. Et pour ça, on a besoin de fonds, justement, pour accélérer notre processus.
Même chose pour vous, Ahmed.
Exactement, on a de très bonnes nouvelles. On a prévu une sortie en septembre 2020. Des grandes distribs se sont positionnées sur nous. On a à peu près 10 000 commandes en un seul salon.
Bravo.
C'est magnifique, sachant que vous allez nous retrouver aussi en janvier, enfin fin janvier à Nuremberg, en Allemagne, au Salon international du jouet. 70 000 acheteurs. En France, on n'en a rencontré que 10. Ils ne nous ont pas encore donné toutes les intentions d'achat.
Vous allez voir que ça va se bousculer, voilà. Bizarrement, après Nuremberg.
Exactement. Du coup, on est aussi sur une levée de fonds pour pouvoir accélérer, pour être prêt en septembre 2020. Et financer aussi la communication et le fonds de roulement.
Bianca.
Alors nous, on ne cherche pas pour l'instant d'argent. Par contre, on a créé hier au Diversity Days à l'Hôtel de Ville de Paris le Curious Connect Club pour fédérer toutes les personnes, les acteurs qui sont concernés par la question de l'alternance. Donc ça, c'est vraiment un message qu'on veut faire porter. Et par ailleurs, on est aussi en train de recruter parce qu'effectivement, pour développer notre plateforme, eh bien, il faut des bras, il faut des cerveaux et des talents. Donc voilà, on cherche des talents pour nous rejoindre.
Et on est persuadés qu'ils vont venir vous rejoindre, ces talents. Merci à tous les trois d'être venus et on attend avec impatience la prochaine édition des Diversités. On embrasse évidemment Anthony Babkin qui est à l'origine de cette belle création, les Diversités.
Il est 13h46.
Europe 1.
Et on reste ensemble, on va s'intéresser à une entreprise qui révolutionne depuis 2011 les codes du snacking. Too Good est l'entreprise qui va bien. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est là, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, eh bien, c'est Too Good. Bonjour Olivier Dahan.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous.
Vous êtes merci de m'inviter.
Le fondateur de cette marque de snacking sain et vous avez longtemps travaillé pour la distribution de marques étrangères. En 2010, en fait, vous avez perdu un gros marché, celui d'Oreo.
Exactement.
Et c'est un peu comme ça que tout commence.
C'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, quand on subit des choses qui peuvent paraître catastrophiques, et 5-6 ans après, on se rend compte que finalement, c'est un mal pour un bien. Donc, je remercie cette perte de distribution, parce que grâce à ça, j'ai créé Too Good. Donc, c'était le premier snack sain sur le marché. Donc, on a fait un petit peu une révolution. On a réussi à convaincre la grande distribution de nous accompagner. Et on est parti en 2012
Ouais, parce qu'à l'époque, c'est 35% de votre chiffre d'affaires, Oreo. Donc oui,
très
vous
dur.
Perdez un gros
ah
client.
Ah ouais, non, je perds mon ADN. C'est-à-dire qu'au départ, comme l'entreprise a été créée avec ça, pour moi...
C'était les revenus principaux.
C'était affreux, je disais, c'était mon sang. Donc après, on se rend compte que les mots ont un sens, mais c'était très 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 dur pour moi. Et au final, on a créé Too Good et aujourd'hui, Too Good fait plus de chiffre d'affaires qu'Oreo à l'époque. Donc, je suis hyper content.
Oui, parce que vous vous dites, je vais réfléchir, il faut que je trouve une solution. Et vous vous dites, je vais créer ma propre marque.
Ouais. Mais je me rends compte qu'en fait, dans l'adversité...
On a de la ressource.
Voilà, vraiment.
Alors, entre Oreo quand même, et ce que vous faites aujourd'hui, Too Good, il y a un monde.
Bah, ça n'a rien à voir. Ouais, mais alors,
est passé du biscuit hyper sucré, dont on n'a pas forcément envie de connaître la composition, à quelque chose d'hyper sain, du snacking sain.
Exactement. Mais je suis quelqu'un d'hyper gourmand, comme tous les gourmands, comme tout le monde d'ailleurs, je crois. À la base, mon rêve, c'était de pouvoir grignoter et de ne pas grossir. C'est juste ça, mon rêve.
Oui,
mais
c'est le rêve aussi, je vous rassure.
C'est le rêve un peu de tout le monde.
Venez voir dans notre bureau.
Donc, au départ, j'étais juste voir 2-3 nutritionnistes. Donc, ce n'est pas comme si j'avais fait une étude ou autre. J'étais voir 2-3 nutritionnistes. Je leur ai dit, je suis un grignoteur. Qu'est-ce que je dois regarder dans mes valeurs nutritionnelles? Ils m'ont tous dit, tu regardes moins de 400 calories au 100 grammes pour le snack salé, j'entends. Moins de 400 calories au 100 grammes et moins de 1% de graisse saturée. Et ben, t'arrives à ton bonheur, tu peux grignoter sans trop de phénomène. Ça n'existait pas. Donc nous, on a cherché à le faire. Une fois qu'on a trouvé l'outil industriel, au départ c'était qu'aux États-Unis, on a essayé d'aller plus loin, d'utiliser cet outil industriel, mais trouver les ingrédients qui nous fassent le meilleur camembert nutritionnel possible, et avec des ingrédients qui soient simples, parce que je voulais avoir zéro polémique. Étant une petite entreprise, je me suis dit que j'allais être attaqué forcément à un moment donné par les gros et je voulais avoir un peu d'avance et être bon dès le départ.
Donc vous sortez le premier produit en 2012.
Ouais, exactement.
Des chips de soja et pommes de terre.
Exactement.
Avec pas mal de saveurs, tomates, herbes, paprika, bacon. Aujourd'hui, vous avez combien de produits?
16.
16 produits.
Ouais. 16 et on essaye d'évoluer dans tous les rayons avec le même leitmotiv, c'est-à-dire savoir se faire plaisir. Sans trop se faire de mal.
Oui, parce que vous êtes tout le temps en recherche de nouveautés. Ouais. Vous avez, après les chips, vous avez été dans les biscuits pour faire des biscuits coco, cranberries et cacao. Et puis là, il y a un nouveau produit qui est sorti récemment, le 1er décembre. Ce sont des chewing-gums, mais ils ont quelque chose de particulier.
Ils ont quelque chose de particulier. En fait, je suis à un rendez-vous chez Super U l'année dernière, en juillet. L'acheteur me dit... faites-nous des chewing-gums, parce que les chewing-gums, c'est basse pétrole et édulcorant chimique. Donc, moi, le premier...
C'est pas très sain.
Ouais, mais je savais pas, parce que pour moi, quand je vois la pub, c'est bon pour les dents, bon pour la santé. J'ai l'impression que c'était pas mauvais, que de mastiquer, que c'était bon pour l'émail des dents, etc. Et en fait, juste en cherchant, pour ce coup-là, c'était pas très dur pour nous. Et c'est les Mayas qui ont inventé le chewing-gum il y a 5000 ans. Et en fait, on a juste repris la recette originelle et on a décidé d'aller un peu plus loin parce que comme les chewing-gums, on sait aussi que c'est 5 ans pour être biodégradable. On a essayé d'aller jusqu'au bout du truc pour pouvoir faire la différence par rapport à la concurrence.
Gilles Van Der Potten, notre coach.
On voit bien que vous essayez d'innover en permanence. Ouais. Demain, ce sera quoi quelles seront les prochaines innovations? Du bio, est-ce que vous allez aider des filières, des filières particulières? Filière du chewing-gum Maya, par exemple. Vous repartez de zéro. Vous recréez une filière qui n'existe plus.
C'est le fruit sec, c'est ça, et les graines.
Pour l'instant, en fait, moi, je suis comme tout le monde. Je pense que comme tous les tous les entrepreneurs, on est un petit peu angoissés de savoir ce qui va se passer. Moi, je suis en veille complète. Je remarque que les entreprises, quoi, les consommateurs, les Français, ils sont de plus en plus bio, naturels. J'ai l'impression qu'on va tous finir en achetant du vrac et sans emballage.
En bocal.
Voilà. Donc, je me suis dit juste, ok, j'ai réfléchi au niveau des graines et des fruits secs. Et je me suis dit, moi, quand j'étais petit, ma mère, elle me disait, arrête les amandes, ça fait grossir. Quand je grignotais. Ou arrête les fruits secs, c'est trop sucré, etc. Ou c'était que pour faire du sport, etc. J'ai juste réfléchi donc à l'instant de consommation. C'est-à-dire que comment prendre notre vision, c'est comment prendre un produit qui marche, comment se différencier. Et ben nous, notre différenciation, ça va être sur l'instant de consommation. Donc pareil, je vais voir des nutritionnistes qui me disent...
Les amandes, les abricots, non, à l'heure des chips, peux, c'est
tu
pas
peux,
mal.
Ils nous disent, tu peux en manger, mais juste voilà, le matin, l'après-midi, le
au
soir,
bon moment.
Au bon moment. Et ils nous font un mix. Donc, plus de glucides le matin, plus de fibres le soir, plus de protéines l'après-midi.
Et énormément de projets à venir, notamment la première chips bio avec un Nutri-Score A.
Ouais,
vous
ça,
découvrirez ça très bientôt. Vous reviendrez nous voir, évidemment, pour en parler.
Ouais, bien sûr.
C'est Too Good, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Olivier Dahan d'avoir
merci
été avec
vous.
Nous. Merci à Gilles Vandeur-Potten qui était notre coach. Elisabeth,
à lundi,
Céline,
Raphaël.
À lundi.
À lundi, c'était Raphaël Duchemin et dans un instant, vous retrouverez Christophe Ondelat.